Agée 1, versets 1 à 11. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Alors pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédentes études sur ce livre, j'aimerais juste rappeler le cadre dans lequel Agée a exercé son ministère. Alors nous sommes à la deuxième année du règne de Darius, comme il est écrit au début du livre, en l'an 520 à peu près avant Jésus-Christ. Darius est le roi de Perse. Après plusieurs décennies d'exil du peuple de Dieu, suite à ses révoltes, ses désobéissances, son idolâtrie, Dieu a ouvert une porte à Israël pour revenir dans son pays grâce à Cyrus, le fondateur de l'Empire perse. Cyrus a donné l'autorisation aux Israélites de repartir dans leur pays pour reconstruire leur temple. Et donc 50 000 personnes quittent le royaume de Perse pour retourner à Jérusalem. Là, on est en 537 avant Jésus-Christ. Au début, tout va bien, les fondations du temple sont posées, mais Cyrus décède et un autre roi prend sa place, Artaxerxès, qui, sous l'influence des ennemis du peuple de Dieu, interdit la reconstruction du temple. Cette interdiction va perdurer pendant 16 ans, mais Artaxerxès, comme Cyrus, n'est pas immortel. Et lui aussi va décéder et laisser sa place à Darius, dont on parle ici. C'est à ce moment-là que Dieu appelle deux prophètes, Agée et Zacharie, pour encourager le peuple à reprendre les travaux. On a vu la dernière fois, au verset 2, que si le peuple, traîne les pieds pour reconstruire le temple, c'est pas simplement dû à la pression des autorités, mais parce qu'ils ont perdu de vue la vision que Dieu leur avait donnée. Au verset 2, Agée dit, « Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» L'immobilisme qui paralyse le peuple n'est plus dû à la pression des autorités, mais au fait que simplement chacun est préoccupé d'abord par le fait d'embellir, de construire sa maison, de l'embellir, au lieu de s'intéresser à la situation du temple. Quand Agée commence son ministère, la situation est donc la suivante. La maison de Dieu est en ruine, tandis que les gens du peuple s'interrogent sur le type de lambris qu'ils vont poser dans leur maison. On voit ici le décalage entre ce que Dieu voulait quand il les a ramenés et ce que le peuple vit. Le peuple a besoin d'un réveil, au fond. Et Agée va leur adresser ici un message qu'on a lu dans les versets 5 à 11 et qu'on va étudier ce matin, un message en trois points. Il y a d'abord un appel à la réflexion, ensuite un appel à faire le constat de leur vie, de leur situation, et puis le troisième point, c'est un appel à se lever pour construire. Le premier point, c'est un appel à la réflexion. Réfléchissez, dit Agée au peuple, attentivement à votre conduite. Dans d'autres traductions, c'est considérer attentivement vos voies. Alors cet appel à la réflexion, c'est un appel qu'on retrouve à quatre reprises dans le livre d'Agée. C'est vraiment le cœur de son message. Réfléchissez à votre conduite. Je ne sais pas comment vous concevez la façon avec laquelle Dieu construit sa relation avec vous. Certains, dans le peuple de Dieu, espèrent toujours de nouvelles révélations, des choses nouvelles que Dieu va leur dire. Mais la parole de Dieu nous montre qu'une, en tout cas que la première chose que Dieu veut faire, c'est stimuler notre réflexion, éclairer notre intelligence. Dieu travaille avec nos pensées, avec notre réflexion. Il nous a créés avec cet outil. Nous sommes créés à son image, nous avons un esprit et c'est par cet esprit que Dieu travaille en nous. Le livre des Proverbes est un livre qui souligne à quel point l'intelligence et la réflexion comptent dans la vie chrétienne, la vie avec Dieu. Le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse pratique, justement, qui est là pour nous amener à nous conduire comme Dieu le souhaite, comme Dieu voudrait que nous nous conduisions ici-bas. Et au début de ce livre, je vais juste lire les quatre premiers versets, voici la ligne que Salomon va suivre en écrivant ce proverbe, ce livre. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Toute l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, c'est de nous amener à renouveler notre intelligence pour penser comme lui pense. La première chose qui s'est passée lorsque le péché est entré dans le monde, c'est que la pensée des hommes est devenue et a été plongée dans les ténèbres. Elle est devenue obscurcie. C'est ce que dit Paul. Notre intelligence naturelle ne comprend pas les choses de Dieu. La première chose que Dieu fait quand il veut s'adresser à un homme, c'est d'éclairer sa pensée par sa lumière. D'éclairer son intelligence pour susciter de nouvelles réflexions dans sa vie sur lui-même, sur le monde, les choses et sur Dieu. Dieu travaille beaucoup avec notre pensée, notre réflexion, notre intelligence. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui avait quitté la maison de son père, qui gardait les cochons, qui avait suivi sa propre voie. Jésus dit à un certain moment qu'il se mit à réfléchir et à se dire « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Comment a commencé le retour du fils prodigue ? Par une nouvelle réflexion sur lui-même, La réflexion commence, elle conduit à une décision. Je vais retourner chez mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. La réflexion est éclairée, elle conduit à une décision. Et la décision prise, elle conduit à une action. Le fils se leva et alla vers son père. L'histoire du fils prodigue nous donne un peu le schéma que Dieu suit lorsqu'il veut nous ramener à lui, comme c'est le cas aussi pour Israël. Il commence un travail dans notre pensée, dans notre réflexion. Il nous amène à considérer attentivement nos voies, à voir là où nos choix personnels nous ont conduits. Et à partir de ce moment, de ce bilan qu'on fait, il nous pousse à changer d'orientation, de direction, à revenir à lui. L'histoire du fils prodigue, c'est aussi l'histoire d'Israël, finalement. Il est ce fils prodigue, Israël, qui s'est éloigné de Dieu et qui a fini dans l'exil, loin de la maison de Dieu. Et il a besoin, comme lui, d'une nouvelle réflexion pour comprendre ce que Dieu désire pour lui. Alors j'aimerais dire ici que si nous avons besoin d'une intelligence éclairée, il n'est pas nécessaire de divaguer pendant des années pour l'avoir. Dieu nous a donné deux outils dans notre vie quotidienne pour garder une réflexion saine. Le premier, c'est sa parole. La méditation de sa parole nous garde dans la pensée de Dieu. Et puis, il y a l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui renouvelle notre intelligence. Et tout part de là, de cette intelligence nouvelle que nous recevons à partir du moment où le Saint-Esprit nous éclaire. L'apôtre Jacques nous dit, et vous connaissez ce passage, « Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On voit bien que la pensée, la raison, l'intelligence, c'est la base de la vie chrétienne. On peut très bien écouter un message, méditer la parole de Dieu, et puis se convaincre par de faux raisonnements. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. On va parler du bonheur que Dieu promet à ceux qui obéissent à sa parole. C'est ici aussi un des sujets du message d'Agée. Mais pour Jacques, le bonheur dans la vie chrétienne commence par une réflexion saine, inspirée par la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit de Dieu. Une réflexion qui aboutit à une mise en pratique de ce qu'on a compris. C'est assez simple, au fond. Dieu nous parle par sa parole. Il nous dit ce que nous devrions vivre et il nous demande ensuite de le faire. Pour l'heure, ce n'est pas la situation du peuple de Dieu ici. Et on va arriver au deuxième point, au constat honnête auquel Dieu appelle par Agée le peuple d'Israël. Constat que Dieu appelle le peuple à faire. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. C'est les versets 5 et 6. Alors, une lecture superficielle de ce passage pourrait nous induire en erreur et nous faire croire que si on obéit à Dieu, ce sera la prospérité. C'est ce que certains disent. Je ne crois pas que c'est là le sens de ce qu'Agé a voulu dire. Agé appelle Israël, son peuple, à un constat. Il leur dit en quelque sorte, vous avez choisi de privilégier d'abord les intérêts de votre propre maison, plutôt que de la maison de Dieu. Quelles en sont les conséquences? Regardez les conséquences de votre choix. Si vous êtes honnête, vous réaliserez que vous êtes perdant sur les deux tableaux. L'œuvre de Dieu n'avance pas, le temple est toujours en ruine, mais la bénédiction de Dieu a aussi fui vos foyers, l'œuvre de vos mains. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Demande l'Éternel. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, la terre s'est produite, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, les montagnes, sur le blé, le vin nouveau, l'huile, les produits du sol, les hommes et les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Agé nous rappelle que la satisfaction dans la vie chrétienne ou dans la vie quotidienne des enfants de Dieu est liée à la priorité, aux priorités que nous avons. Nous pouvons travailler beaucoup et récolter peu, être peu satisfaits de notre travail, si nous oublions que nous devons privilégier le royaume de Dieu et ses intérêts avant nos maisons, avant nos intérêts à nous. Dieu donne une place à chaque chose dans la vie. Bien sûr, il veut qu'on assume ses responsabilités, qu'on pourvoie nos propres besoins. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes là d'abord pour lui, dans ce monde. Le message d'Agé rejoint, je pense que certains peut-être ont fait le lien dans leur esprit, l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6, où il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. » Ça rejoint des choses qu'on trouve dans le livre d'Agé. Agé parle de la nourriture, de la boisson, du vêtement. « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus, en plus. » Nous devons vraiment nous rappeler que la qualité de la vie chrétienne, elle est liée aux priorités que nous avons. La vocation du peuple de Dieu n'est pas celle des autres peuples qui ne pensent qu'aux choses humaines, qui ne vivent que pour le monde d'ici-bas. Dans le psaume 49, versets 12 et 13, il est dit « Les riches s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui ont donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. » Des préoccupations de Dieu et de son royaume doivent avoir la priorité. Nous devons nous rappeler aussi que la bénédiction de Dieu, elle est liée à notre relation avec Dieu. Parfois, nous pensons que la bénédiction, c'est Dieu qui est là, puis qui nous donne quelque chose. Comme si elle était coupée, comme si elle était indépendante de Dieu, en quelque sorte. Mais la bénédiction de Dieu, elle est en Dieu. Et quand on vit dans la communion avec lui, dans l'obéissance, eh bien, elle découle de cette relation qu'on a avec lui. Considérez attentivement vos voies. Que se passe-t-il dans nos vies quand nous nous détournons de Dieu? Est-ce qu'on ne fait pas l'expérience, à un certain moment, que la joie disparaît? Le contentement, le bonheur, la satisfaction. Certes, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Ici, Israël continuait à vivre, ils avaient le minimum. Mais dans la vie chrétienne aussi, si on s'éloigne de Dieu, si on coupe avec lui, il faut savoir qu'on ne va plus vivre la richesse de la présence de Dieu. Dieu sera toujours là, il nous donnera le minimum, mais on ne connaîtra pas l'abondance dont Jésus parle. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, dit Ésaïe. Venez acheter, manger. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. C'est Ésaïe 55, versets 1 et 2. La plénitude de la vie que Dieu nous promet se trouve dans la communion, dans l'obéissance, dans la vie avec lui. La bénédiction de Dieu n'est pas séparable de Dieu. Elle vient avec lui. Toute grâce, tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Elles viennent de lui directement. Et à partir du moment où le peuple vivra, retrouvera les bonnes priorités, alors Dieu promet aussi de bénir l'œuvre de leurs mains, leur travail. Le troisième point, après ce constat, Dieu appelle le peuple à se lever pour entreprendre la reconstruction. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et construisons le temple ensemble. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. J'ai été frappé par cette expression quand j'ai lu ce texte, j'en aurai de la joie. Souvent, dans notre relation avec Dieu, explicitement ou implicitement, on lui demande de nous rendre heureux. Fais du bien à mon âme, réjouis-moi. Mais Dieu nous dit aussi que nous pouvons apporter de la joie à Dieu. Dieu n'est jamais si heureux lorsque son peuple vit avec lui, travaille avec lui, construit avec lui. Quand nous commençons à collaborer avec Dieu dans le projet qu'il a, il y a de la joie dans le ciel et dans le cœur de Dieu. Et cette joie, Dieu la partage avec nous. Plusieurs fois, Dieu exprime la joie qu'il a lorsque son peuple lui obéit dans la Bible. Au moment où Moïse reçoit la loi, le peuple de Dieu s'approche de Moïse et lui demande, nous on a peur, sois l'intermédiaire entre Dieu et nous. Tu nous diras les paroles de Dieu et nous mettrons en pratique ce que Dieu nous dira. Et Dieu dit à Moïse, si seulement ce peuple avait toujours ce même cœur pour me craindre et respecter tous mes commandements afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Si seulement nous étions constants dans notre relation avec Dieu, dans notre attachement à Dieu. Plus tard, dans le psaume 81, on retrouve ce « si seulement » de Dieu. « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, le bonheur d'Israël durerait toujours. » Psaume 81, versets 14 à 16. L'œuvre de Dieu réjouit le cœur de Dieu et réjouit le cœur de son peuple. Notre difficulté, c'est certainement notre inconstance. Et l'apôtre Jacques nous dit, nous devons vraiment prier pour ne pas être inconstants, ne pas varier sans arrêt dans notre désir d'obéir à Dieu, de marcher avec lui. Je le vois dans ma vie, très facilement, je peux être rempli de joie, du désir de servir Dieu une journée, et puis j'ai rencontré une difficulté, j'ai été déçu, et puis ce désir s'atténue, disparaît. Je dois être renouvelé constamment. La joie est, on peut dire, le zèle pour la maison de Dieu. Il est aussi lié au fait que Dieu donne à tout le peuple cet ordre ensemble. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Dieu ne conçoit pas que ce soit que par quelques-uns que le travail avance. Dieu a mis dans le cœur de son peuple des forces, des dons, et c'est ensemble, construisons ensemble, il leur dit. Et si on veut voir vraiment la pratique de cela, il faut lire le livre d'Esdras et de Néhémie, puisque c'est dans la même période. Et on voit ce que Dieu peut faire quand Dieu réveille un peuple et qu'il le soude dans l'optique d'un même projet. On doit se rappeler chacun individuellement qu'on peut être soit une source d'encouragement, soit une source de découragement pour les autres. Mais le but de Dieu, c'est de travailler avec tous. Personne n'est mis de côté. Et on le voit dans le livre de Néhémie. Quand ils construisent la muraille, par exemple, il y a des hommes, il y a des artisans, il y a des femmes, il y a des enfants. Il y a des gens qui vont à un endroit, puis quand ils ont fini, ils vont à un autre endroit. Tout le monde met la main à la pâte. Le message d'Agé portera du fruit, on le verra la semaine prochaine. Mais dans le livre d'Esdras, il nous est dit, « Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction. À partir du moment où il y a eu le réveil, il n'y a plus eu d'obstacle. Encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, ils finirent de construire le temple suivant l'ordre de Dieu, l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse. Il fut terminé le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année du règne du roi Darius. » Alors que la construction avait stagné pendant 17 ans, ici, en 4 ans, tout a été fait. Le temple a été reconstruit, le culte a pu être rétabli. Dieu dit, j'en aurai de la joie et je serai honoré. Que déduire de tout cela? D'abord, on doit se rappeler que nous ne sommes pas là pour construire notre propre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous faisons partie d'une grande histoire, d'un grand projet. Et nous y avons notre place, chacun. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, s'il t'a sauvé, s'il t'a intégré dans le corps de Christ, c'est qu'il veut t'utiliser. Il veut se servir de toi, d'une façon ou d'une autre, pour que le témoignage, parce que c'est ça le temple, le témoignage de son nom, puisse être vu et reçu. Qu'il puisse y avoir un rayonnement dans le monde. Jésus nous a parlé de son projet dans Matthieu 16, je vais terminer avec ça, Matthieu 16, versets 17 et 18. À partir du moment où Pierre, le premier à confesser, a reconnu, a compris par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a éclairé son intelligence, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Première parole que Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ce dont on a le plus besoin dans la vie chrétienne, c'est sans doute de garder la vision dans laquelle s'inscrit notre vie. La vision du projet de Dieu, qui est de construire l'Église. Ce projet réussira. Je construirai mon Église et rien ne l'empêchera. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Le seul obstacle, il n'est pas extérieur, il est en nous. Il est dans le danger d'oublier pourquoi nous sommes ici-bas, d'oublier la vision qui est celle de Dieu pour nous, d'oublier la vision de ce royaume qui vient bientôt. Tous les royaumes vont disparaître. On le verra plus tard dans Agée chapitre 2, où il parle de l'importance qu'aura le temple dans l'avenir. Dieu va ébranler tous les royaumes et pour établir son règne. Et nous sommes en train de travailler à cela. Alors que Dieu nous aide à garder nos cœurs vivants, animés, zélés pour lui, dans le but de travailler à l'édification de son témoignage. Ce témoignage passe par l'Église, et nous sommes l'Église. Voilà, prions encore ensemble.